www.radio-g.fr.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day, I cut my throat.
Salut et bienvenue dans Bande Geek Mafia. Bande Geek Mafia, c'est votre émission Info Culture tous les mercredis à 19h sur Radio G. Salut Pablo.
Salut à tous, salut
de
Sébastien.
De quoi vas-tu nous parler ce soir?
Eh bien écoute, on va continuer sur une chronique philo, c'est-à-dire série philo Game of Thrones.
Cool.
Et cette fois-ci, on va parler de Jaime et de Tyrion, les Lannister.
Salut Seb.
Salut Seb, salut Pablo.
Coucou, ouais, ça va.
Qu'as-tu
bien.
Qu'as-tu dans ton panier BD?
Alors moi, je n'ai qu'une seule BD aujourd'hui.
Bien belle BD.
Ah bah une belle, hein. En réalité, c'est 5 BD réunis en un seul tome, donc autant vous dire, c'est un
pavé. Ouais, c'est un gros volume.
Énorme.
Oui, c'est voilà. Énorme.
Et puis on salue aussi Anaïs qui nous a envoyé une super chronique, vous allez la découvrir tout à l'heure, c'est une surprise. Et moi, je vous parlerai un petit peu de cinéma, un peu de musique, comme d'habitude, tout ce qu'on aime. Alors, pour faire plaisir aux auditeurs et aux auditrices, bien sûr, on répond aux demandes. Et alors, on a eu une demande, Pablo. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'était?
En fait, là, il y a 15 jours, on a passé un morceau des Who, mais faute de temps, on a dû le tronquer et une personne s'est sentie un peu lésée, donc on lui doit réparation.
On fait plaisir aux auditeurs,
voilà.
Et aux auditrices. On
passe. Spéciale dédicace, Laetitia.
Baba O'Reilly dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point. Thank you.
tape dans les mains. Et voilà, c'était The Who.
The Who.
Avec Baba O'Reilly.
Et encore, vous n'avez pas vu Sébastien en train de danser. Hein,
Ah non, ça c'est pas possible. C'est juste pas possible, j'ai mal au dos. Voilà, donc c'était Baba O'Reilly des Who dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
101.5, la radio qui fait.
Waouh, merci Seb.
De rien.
Il est trop fort. Alors tout de suite, un petit jingle quand même, parce qu'on aime bien ça. On va vous parler de cinéma pour démarrer l'émission. C'est parti. C'est fait à la bouche, tout est fait à la bouche. Alors vous connaissez peut-être ce site qui s'appelle Shitty Flute.
Comment ?
Shitty Flute, la flûte de merde, qui parodie, qui rejoue comme ça toutes les musiques les plus célèbres à la flûte. Mais à la flûte de merde. Alors ce soir, dans Bande Geek Mafia, un peu de cinéma, je voulais revenir sur le Joker. Ah, parce que quand même, le Joker repasse à la télévision en ce moment, en particulier sur Canal. Et bon, c'est quand même un film qui a marqué. Et puis, c'est un film que Bande Geek Mafia a beaucoup aimé, sauf moi. Je suis celui qui a le moins aimé ce film dans l'équipe, mais c'est pas grave.
C'est toujours comme ça. Tout le monde aime Christopher Nolan, sauf toi.
Sauf moi, c'est ça. Non, c'est pas toujours. C'est pas une posture. Là, c'est pas ça, en fait.
Il en faut bien un.
Par contre, j'ai fait un effort, et donc je suis allé chercher, comment dire, les films qui auraient pu inspirer le Joker. Voilà.
Okay.
On va faire un peu de cinéphilie, si tu veux. Parce que, quand même, le réalisateur du Joker, je vous rappelle quand même que c'est le gars qui a réalisé la trilogie potache des Very Bad Trip, quand même.
Ah oui.
Donc au départ, c'était pas gagné, quoi.
C'est clair. Ouais, non, c'est clair. C'est pas du tout le même registre.
Vous comprenez pourquoi j'avais un a priori un peu.
Ouais.
Alors, et pourtant, c'est lui qui a fait, on va dire, le film le plus sombre jamais inspiré par l'univers des super-héros, même plus sombre que Nolan avec Batman finalement. C'est le Joker, c'est la chronique des débuts du pire ennemi de Batman, avec un Joaquin Phoenix époustouflant, ça c'est vrai dans le rôle.
Ouais, c'est pas faux. Ouais.
Et selon Todd Phillips, ce réalisateur, c'est une étude de caractère qui ne produit plutôt plus jamais Hollywood aujourd'hui, alors que des drames psychologiques étaient courants dans les années 70. Voilà. Ça, c'est ce qu'il dit. Donc finalement, il a voulu faire un film à l'esthétique réaliste, mais avec des influences, moi je trouve, parfois surprenantes, vous allez voir. Quatre influences pour le Joker de Todd Phillips. D'abord, l'influence la plus évidente pour moi, c'est L'Homme qui rit. Alors, L'Homme qui rit, c'est un roman de Victor Hugo, mais qui a été adapté au cinéma dans les années 20, en fait, en 1928. Et d'ailleurs, pour écrire le scénario avec Scott Silver, Todd Phillips, il est revenu à la source du personnage, il a revu le film L'Homme qui rit, classique du cinéma muet donc, 1928, adapté de Victor Hugo. Et d'ailleurs, il faut le savoir, quand on cherche un peu, Bob Kane, le premier dessinateur de Batman, il s'était inspiré du sourire figé de Conrad Veidt, qui joue dans le film, pour créer le personnage du Joker. Voilà.
D'accord.
Donc première influence, une influence littéraire.
Ouais. Ouais, c'est beau. Mais absolument, ouais, c'est vrai.
Alors ensuite, deuxième influence très forte, alors là c'est moins célèbre, c'est La Valse des Pantins. La Valse des Pantins, c'est un film de Martin Scorsese et c'est peut-être son film le moins connu. C'est un film de 1982 avec Robert De Niro. Et en fait, on dirait que le film de Todd Phillips, c'est un pastiche de ce film de Scorsese. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est une satire assez dérangeante et donc méconnue, dans laquelle De Niro incarne un mariole, un clown en fait, qui rêve de faire de la télé. Et qui harcèle un animateur vedette.
Ah oui, quand
bien.
Même.
D'accord. Et donc, je vous rappelle que dans le Joker, le personnage de Joaquin Phoenix fait le siège de son idole médiatique, joué par Robert De Niro.
Oui, justement.
Et voilà.
Ah, la boucle est bouclée.
Voilà, exactement.
Ouais, absolument.
Troisième influence, Taxi Driver, même Scorsese, parce qu'on retrouve les décors déglingués de Gotham City. Bah, ils sont carrément inspirés du New York nocturne, cauchemardesque des années 70, quoi, de 76 pour le film. Mais ça doit aussi quand même... Le film doit aussi au thriller de Sidney Lumet comme Un après-midi de chien, Serpico, c'est-à-dire toute cette ambiance de New York des années 70 qui était une ville sale, qui était une ville dangereuse, qu'on retrouve là dans le Gotham du Joker.
Avec Robert De Niro aussi.
Encore
une fois.
Oui, tout à fait, Taxi Driver. Et puis, alors là, beaucoup moins connu, mais pas du tout connu, j'ai découvert ça en cherchant un peu, News from Home, dernière influence. Mmh. Alors ça, c'est un documentaire, un essai filmique. En fait, si vous regardez News from Home, c'est intéressant. Ce sont de longs plans séquences de New York, en fait, sur lesquels la réalisatrice Chantal Akerman, que vous connaissez peut-être, elle lit des lettres de sa mère. Voilà. Et en fait, Todd Phillips, il a revu ce film avant de tourner le Joker, et il considère ce film comme l'un des témoignages visuels les plus forts, les plus justes sur le New York des années 70. C'est juste des plans de New York, hein, des vues de la ville de New York. Et donc finalement, le petit rigolo là de Very Bad Trip, mais finalement il est admirateur de l'une des œuvres les plus exigeantes du cinéma d'auteur européen. Voilà. Ouais. Et moi je ne m'y attendais pas. Voilà.
Effectivement.
Donc revoyez Joker, hein, voilà. Ouais. Moi je vais le revoir pour me refaire une idée, parce que c'est vrai qu'au départ moi j'ai rien contre le réalisateur ni contre l'acteur qui sont excellents, mais c'est vrai, moi ce qui m'a agacé c'est la fin du film, et en particulier tout le discours sur la mère. C'est toujours la mère qui est responsable des problèmes de son fils. Enfin bon, c'est une espèce de discours psychanalytique qui me saoule à chaque fois.
Ouais, moi aussi je trouvais que c'était la limite aussi.
Voilà.
Ouais.
Par contre, moi ce que j'ai trouvé génial, c'était le côté effectivement complètement transgressif du Joker. Ouais. Moi je pensais qu'il allait aller jusqu'au bout de sa logique, et ben non, finalement c'est la faute de sa mère.
Ouais, bon, tout à fait.
Alors voilà, bon, hormis ce point-là, on va dire, on va laisser
la faute de sa mère.
Bah si, c'est parce qu'elle est folle.
Et d'un système aussi qui le met côté de façon violente en fait aussi.
C'est ça.
Ouais.
Mais tu vois bien, moi j'ai trouvé que le film il allait pas jusqu'au bout de sa démarche.
Ouais. C'est-à-dire, tout à fait.
Tu vois, c'est qu'à la fin finalement, trouver une petite pirouette, très américaine d'ailleurs. Mais sinon, ça aurait été un film carrément anarchiste, quoi.
Ben c'est ça. Et c'est ça. Et en fait, là, il va pas jusqu'au bout.
Ça me dérange.
Alors qu'en fait, Joker, c'est un anarchiste, un anarchiste extrême qui veut le chaos, hein. Par contre, c'était pas évident de passer après le Joker de Nolan. Et là, franchement, chapeau l'artiste.
Joaquin Phoenix comme Heath Ledger sont deux grands Jokers. Ça, y a rien à dire là-dessus.
Ah bah ça, y a pas photo.
Et le film est réussi. Moi, c'était juste plutôt le propos du film qui m'a, le fond de Après pour le reste revoyez le Joker, et puis je vous conseille de voir donc L'homme qui rit si vous aimez les films muets, La valse des pantins et Taxi Driver de Martin Scorsese qui sont des chefs-d'œuvre, et News from Home, une espèce d'ovni expérimental. Voilà.
Yes, merci.
C'était ça pour moi. Un petit peu de musique ?
Yes. Ben oui.
Moi j'avais envie d'écouter un peu de musique électronique. Il y a surtout un morceau que j'adore. C'est un vieux truc, mais j'adore ça. C'est un groupe danois qui s'appelle Rock Scrap avec Apple. Ça veut dire pomme dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
C'est un mois Sinclair qui fait le point.
Ah oui. We'll be right back.
rester. Roy Scop avec Apple dans Don't Get My Far. C'est pas facile de parler avec un masque. Explique aux auditeurs pourquoi parfois on bafouille quand même. Parce qu'on a des masques. Alors, de tout de suite, on fait un petit coucou et un gros bisou à Anaïs qui nous a envoyé une magnifique chronique. Donc, surprise, j'ai joué. Avec, donc, alors, je crois qu'elle a tout intégré, les jingles et tout. C'est vraiment.
Ah, mais elle est comme ça, elle fait tout, Anaïs.
Elle est trop forte. Alors, par contre, je suis donc sur le drive.
Et ça y est.
On est bien la semaine 39.
Oui, on est la semaine 39.
C'est parfait. Ouais. Donc, on va pouvoir écouter tout de suite la chronique d'Anaïs dans Mon Geek Mafia sur Radio G.
Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer.
Pardon ?
Quoi, nous avons affaire à un serial killer.
Un quoi ?
Un serial killer.
Hein?
Un serial killer, tueur en série.
Ah, serial killer.
Bonjour à toute l'équipe de Band Geek Mafia et à tous les auditeurs. Je vous propose ce soir cette petite chronique enregistrée car je suis actuellement en voyage sur une petite île de Vendée, l'île Dieu. C'est pourquoi j'ai choisi de vous présenter un auteur de polar très célèbre. Non pas sur une petite île, mais sur une bien plus grande, l'Islande. Cet auteur fait depuis quelques années partie de mes écrivains fétiches, en particulier quand vient l'été, qui rime souvent pour moi avec polar. La période estivale et ses longues heures passées au soleil sur un transat ou sur le sable fin face à la mer m'apparaissent toujours idéales pour se plonger dans ce type de lecture. Entre parenthèses, on aimerait tous de nouveau y être. J'ai donc dévoré cet été trois romans de l'auteur islandais Arnaldur Indridason. Avant de vous en parler, et pour ceux qui seraient passés à côté du phénomène, je vous propose une rapide présentation de l'écrivain à succès. Diplômé d'histoire, Indridason a commencé sa carrière en tant que journaliste. Également scénariste indépendant, il travaille comme critique de films dans les années 80-90. Il publie son premier livre en 1997, « Fils de poussière ». Je vous épargnerai ce soir tout au long de cette chronique les titres originaux en islandais, même si j'imagine que cela aurait bien amusé mes camarades. Donc cette publication marque pour certains, comme Arlan Coben, le départ d'une nouvelle vague islandaise de fiction criminelle. Aux côtés d'Ami Purarinsson, également auteur islandais de polar, Arnaldur déclare qu'il n'existe pas de tradition de polar en Islande. À cet état de fait, il y a deux raisons. L'une tient en ce que les gens, y compris les écrivains, considéraient les histoires policières comme de mauvais romans. La deuxième raison, c'est que beaucoup d'Islandais ont longtemps cru en une sorte d'innocence de leur société. Très peu de choses répréhensibles se produisaient et le peu de faits divers ne pouvait pas donner lieu à des histoires policières. Ce qui explique qu'à leur début, Thorarinsson ou Indridason ont du mal à s'imposer dans les milieux littéraires islandais. Aujourd'hui, Indridason est l'auteur d'une vingtaine de romans policiers, quasiment tous traduits en français. Bon nombre d'entre eux sont devenus des best-sellers. Par ailleurs, les livres d'Arnaldur ont été publiés dans 26 pays et traduits en allemand, danois, en anglais, en français, en italien et j'en passe. Arnaldur a reçu le prix Clé de Verre, un prix de littérature policière scandinave en 2002, mais aussi en 2003. Il a également gagné le Gold Dagger Award, prix littéraire britannique en 2005 pour La Femme en Vert, qui est l'un de mes romans préférés d'ailleurs. Les principaux romans d'Arnaldur Indridason mettent en scène la même équipe d'enquêteurs, dont la brute Erlendur torturée par la disparition de son frère, alors qu'il n'était qu'un enfant, et tourmentée par sa fille toxicomane. Ce sont ses souffrances et les conditions qui les ont engendrées qui intéressent particulièrement Arnaldur. Ces romans sont régulièrement des prétextes à un voyage dans le passé, tel l'homme du lac, où l'enquêteur Erlendur trouve un squelette vieux de 40 ans faisant appel au passé communiste d'une partie des Islandais durant la guerre froide. Arnaldur déclare à ce propos « Je m'intéresse aussi aux squelettes qui collent au basque des vivants. Ce qui m'intéresse le plus, ce sont les squelettes vivants, pourrait-on dire. Mes romans traitent de disparition, mais ils ne traitent pas principalement de la personne qui a disparu, plus de ceux qui restent après la disparition, dans un état d'abandon. Je m'intéresse à ceux qui sont confrontés à la perte. Ce sont ces gens-là que j'appelle les squelettes vivants. Ils sont figés dans le temps. J'aime beaucoup remonter le temps et envoyer mes personnages sur les traces du passé. J'aime exhumer des événements oubliés. Le temps, en tant que concept, est quelque chose qui m'intéresse énormément. La manière dont le temps passe, mais aussi son influence, les conséquences de son passage sur nos vies. J'aime déceler les liens entre une époque ou une autre, Évidemment, la thématique du temps est une partie très importante des histoires que je raconte, que ce soit son pouvoir destructeur ou son pouvoir de guérison qu'il peut avoir. Même si, dans La Femme en Vert, Erlen Durr déclare que le temps ne guérit aucune blessure. La trilogie des ombres nous fait justement remonter le temps, puisqu'elle nous plonge dans l'Islande de la Seconde Guerre mondiale. C'est cette trilogie que j'ai pu lire cet été, en tout cas les deux premiers volets. Elle s'ouvre avec le tome 1 qui s'intitule « Dans l'ombre ». On y suit au départ un représentant de commerce qui est retrouvé dans un petit appartement de Reykjavik, tué d'une balle de Colt et le front marqué d'un SS en lettres de sang. Rapidement, les soupçons portent sur les soldats étrangers qui grouillent dans la ville cet été 1941. Deux jeunes gens sont chargés des investigations. Flovan, le seul enquêteur de la police criminelle d'Islande, ex-stagiaire à Scotland Yard, et Thorson, l'Islandais né au Canada, désigné comme enquêteur par les militaires puisqu'il est bilingue. L'afflux des soldats britanniques et américains bouleverse cette île de pêcheurs et d'agriculteurs qui évolue rapidement vers la modernité. Les femmes s'émancipent, les nazis, malgré la dissolution de leur parti, n'ont pas renoncé à trouver des traces de leur mythe et de la pureté aryenne dans l'île. Par ailleurs, on attend en secret la visite d'un grand homme. Donc les multiples rebondissements de l'enquête dressent un tableau passionnant de l'Islande de la situation. Cette occupation de jeunes soldats qui sème le trouble parmi la population féminine. Il révèle aussi des enquêteurs tenaces, méprisés par les autorités militaires, mais déterminés à ne pas se laisser imposer des coupables attendus. J'ai aimé le sujet, mais peut-être un peu moins le manque de dynamisme de l'écriture présente dans ce tome. La lenteur de l'action et les nombreuses fausses pistes sur lesquelles nous amène Ingrid Asson ne m'ont pas permis d'être captivée, comme je le suis d'ordinaire à la lecture de ses romans. J'ai tout de même enchaîné sur le deuxième volet, intitulé « La femme de l'ombre », dans lequel on retrouve les deux complices Flovan et Thorson. J'ai davantage accroché cette fois-ci à l'intrigue, toujours aussi complexe, dans laquelle plusieurs affaires scabreuses et difficiles nous seront révélées et peu à peu les liens qui les unissent. Au départ, un jeune homme est victime d'une attaque bestiale, impitoyable, près d'un bar fréquenté par les militaires américains. Puis, des pêcheurs se heurtent au corps d'un homme noyé, ramené sur le rivage par les vagues. Mais avant, une jeune Islandaise, ayant travaillé en Norvège et en Suède, profite de l'autorisation des Allemands de rentrer au pays et pleure son fiancé, justement arrêté par la Gestapo au Danemark. La guerre, l'occupation, la collaboration, la résistance, toujours en trame de fond de cette histoire, nos deux policiers qui ont développé une solide collaboration et aussi une belle amitié ne sont pas au bout de leur peine et devront affronter le mutisme de certains témoins, mais surtout cette grande et immensément organisée institution qu'est l'armée. Il ne me reste de mon côté plus qu'à lire le dernier volet de la trilogie qui est intitulé « Le passage des ombres ». Bien évidemment, je vous ferai un petit retour de ma lecture dans l'émission. Je vous propose pour finir un dernier roman d'Ingrid Asson, « La muraille de lave » qui traite de toute autre chose et que j'ai aussi donc eu l'occasion de lire cet été. Le déroulement de la muraille de lave aurait pu se situer en 2007 alors que la crise des subprimes se propage à l'échelle mondiale. Les dérives du système financier ont probablement interpellé Ingrid Asson, qui est aussi journaliste, comme je vous l'avais précisé en introduction, lui donnant matière à la construction de ce roman policier dans lequel les nouveaux vikings de la finance se croient tout permis. Paradis fiscaux, sociétés écrans, blanchiment de capitaux, spéculation à outrance, etc. C'est dans un contexte donc économique et financier où les limites du raisonnable sont depuis longtemps dépassées que l'inspecteur en second Sigurdur Holli mène de front plusieurs enquêtes criminelles qui a priori n'ont pas de lien entre elles. On retrouve de la pédophilie, un meurtre et une disparition suspecte. L'empathie n'est pas du tout le fort de Sigurdur Holli. Il serait plutôt condescendant, voire manichéen. Il faut néanmoins lui reconnaître une témérité dans l'action et une efficacité à conduire des investigations, malgré une façon de procéder en solitaire pas toujours académique. Les fervents lecteurs d'Ingrid Asson regrettent sûrement l'absence du commissaire Erlen Durr, qui est ici injoignable, puisque en vacances. La personnalité de ce dernier est sans doute plus consensuelle que celle de son subalterne. Ingrid Asson dépeint ici une société islandaise complètement désabusée et nous dresse un tableau très sombre avec des protagonistes ne dégageant pas vraiment la joie de vivre et où les comportements déviants parsèment constamment l'intrigue. Le rythme du polar est par contre assez haletant, les rebondissements incessants et l'épilogue dans le milieu opaque de la haute finance ne déçoit pas. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. Pour rester dans le thème et pour votre plus grand plaisir, j'imagine, je vais vous laisser, chers camarades chroniqueurs et bien sûr chers auditeurs, avec un groupe. Le groupe qui représente l'Islande à l'Eurovision 2020 et son titre...
La chronique d'Anaïs vient de s'arrêter.
C'est normal, il y a eu un tremblement de terre à ce moment-là, et du coup, en Islande...
On n'a pas la musique, du coup.
Ben non, non, non. Bon, je peux essayer de la faire à la bouche, mais je suis pas sûr d'y arriver, hein, quand même.
On a entendu la chronique d'Anaïs, mais on n'a pas la musique finlandaise qu'elle voulait nous passer. Ah bon, alors, je ne comprends pas ce qui s'est passé. On a un bug technique. Bon, bah écoutez...
Il y a un bug dans la matrice.
On va quand même redire merci à Anaïs.
Oui, merci Anaïs.
Ouais, merci Anaïs.
Pour cette chronique. On n'a pas la musique.
Envie de lire Indridason.
Ouais, Arneldur Indridason, excellente écrivain quand même.
Et donc, puis de manger un petit morceau de requin faisant des.
Moi, je vous ferais bien écouter un groupe finlandais, mais j'en ai pas dans ma besace parce que on a quand même une belle playlist là, une belle cette liste de Van Geek Mafia. Mais un groupe finlandais, les gars, qu'est-ce qui vous
finlandais
vient à l'esprit?
Islandais.
Islandais, pardon.
Islandais.
Ah oui, pardon.
Islandaise, encore pire.
Oh là là, mais je suis fatigué.
Mais non, mais t'inquiète
un
pas.
Un groupe islandais, bah Björk alors.
Mais tu vois, on est un peu limité quoi, quand même. Hein, quant à nous. Hein.
Pourquoi on est limité? Bah oui, bah islandais en même temps. Je cherche, hein, mais à part Björk, je vois pas. Bon, alors on écoute Björk sur Van Geek Mafia. Sur Radio G.
101.5, la radio du fait.
Merci Anaïs. C'était Björk avec Verandi. Dans Van Geek Mafia sur Radio G. Alors tout de suite la suite. La suite c'est la chronique philo de Pablo. Alors Pablo, un petit jingle quand même.
Oui, alors j'ai un...
Non, ah, tu veux pas ton petit jingle?
Si, alors j'ai pas mis le jingle cette fois, mais on va lancer directement la musique.
Ah, je crois que c'était ça moi, regarde.
Voilà. Reigns of Castamere, puisque aujourd'hui en fait nous revenons sur Game of Thrones. Une série de portraits donc philosophiques de personnages. Et puis aujourd'hui nous allons parler des Lannister. Nous allons parler mais particulièrement de Jaime et Tyrion Lannister. Deux lions brisés. Et je vous propose ce titre. Avoir un handicap permet-il de mieux se connaître?
Une problématique ça.
Carrément.
C'est pas faux.
Jamie, d'abord présenté comme beau, arrogant et immoral. C'est ainsi qu'il apparaît dans les deux premières saisons de Game of Thrones, notamment dès le premier épisode, où il brille par son arrogance, son cynisme, son immoralité. Lorsqu'il est surpris en train de faire l'amour à sa sœur, Cersei.
Quelle horreur.
Les deux, effectivement, les deux jumeaux forment un couple incestueux. Premier épisode, je ne spoil absolument rien.
Ah non, ça c'est clair, c'est les 10 premières minutes.
Par le jeune Bran Stark qui vient d'escalader la tour où il se cachait. Il tient l'enfant suspendu dans le vide. Il a une légère hésitation, mais le pousse. Il le fait évidemment pour protéger la réputation de sa sœur, reine et épouse du roi Robert Baratheon, et par amour. Il dit d'ailleurs cette fameuse phrase, vous connaissez ?
Non.
The things we do for love.
Oh,
les choses que nous faisons par amour.
Oh, c'est pas extraordinaire comme phrase ?
Non, mais ouais, je l'ai bien retenue, je la trouve pas mal, elle claque quand même.
Ah, ouais.
Et effectivement, alors Bran, Bran finira estropié, paraplégique.
Oh.
Un de plus, allez, un handicapé de plus. C'est qui lui révélera des pouvoirs extraordinaires. Et un destin insoupçonné, si l'on en croit la dernière saison.
On oublie la dernière saison.
Outre son arrogance et cynisme, Jamie est une des plus fines lames des sept couronnes. Jamie se fera capturer, puis se fera trancher la main droite, sa main d'épée, alors qu'il est otage et en transfert, et qu'il défend l'honneur de Brienne de Torth, la grande guerrière qui devait l'escorter. Une fois mutilé, il tombera le masque et acquerra une ouverture, une complexité de pensée et une compréhension de l'autre considérable. Il n'aura de cesse de gagner en lucidité et de reconquérir son identité entachée par sa réputation de régicide. Cette réputation de régicide, Kingslayer, lui colle à la peau comme une tache infamante. On lui reproche d'avoir poignardé dans le dos le roi fou, Aerys Targaryen, pour l'arrêter dans sa folie destructrice. Ce dernier voulait brûler toute la capitale alors qu'il avait perdu la guerre et qu'il était renversé. Seb, tu veux bien nous mettre la deuxième musique, s'il te plaît ? Merci. Aerys Targaryen, le roi fou. Pardon. Effectivement, Jaime l'arrête dans son geste. Mais il ne fut jamais reconnu pour ce geste héroïque. Car en tant que chef de la garde royale, il devait une loyauté aveugle à son monarque. Mais n'est-il pas nécessaire, mes amis, de désobéir à la loi dans certaines circonstances ? Si la loi est injuste et illégitime, par exemple ? En tout cas, une mauvaise réputation vaut comme un handicap dans son cas. Au fond, il souffrait déjà d'un handicap. De plus, il était proche de son petit frère Tyrion le nain, qualifié de gnome par les autres. La musique que vous entendez s'appelle
You are no son of mine.
You are no son of mine. Phrase de Tywin Lannister, son père. Tyrion est un personnage extraordinaire, tant dans son humanité que dans son intelligence exceptionnelle. Il est né nain, sa mère est morte en lui donnant la vie. Ce que ne cesse de lui rappeler son père, Tywin Lannister, en l'accusant de ce crime et en le méprisant. Si ce dernier le méprise, c'est avant tout à cause de sa différence, de son handicap. Tyrion dit souvent que les nains sont des bâtards aux yeux de leur père. Il n'est pas digne d'être un Lannister. Il n'est pas digne d'être de la maison des lions, lui qui est un avorton. Pourtant, il est là. S'il est là, c'est qu'il est tout juste toléré. Ce manque de reconnaissance et ce mépris sont des blessures profondes qui renforcent la situation de handicap du nain. Tyrion est aussi connu pour aimer boire et coucher avec des prostituées.
C'est vrai.
Il aime la vie.
Il aime la vie, c'est clair. Mais il a surtout développé des facultés d'analyse et d'empathie qui en font un fin connaisseur de l'âme humaine et un stratège politique hors pair. Il rappellera qu'il a sauvé Port-Réal, King's Landing, lors de la bataille de la Nera, fin de la saison 3. Et notamment durant son deuxième procès, dans la saison 4, épisode 6, il racontera cet épisode et dira la vérité. Quand qu'en fait, ce qu'on lui reproche avant tout, c'est d'être un nain.
Ouais.
C'est ça
son problème.
Son vrai crime. Le handicap est une fragilité. La fragilité existentielle de l'homme. La fragilité de tout vivant. Mais non uniquement une faiblesse. Il peut même être une puissance vitale. Une volonté de puissance vers la grande santé, comme aurait dit Nietzsche dans Ecce Homo. Qui pousse au dépassement de soi. Qui donne un sens à sa vie et une valeur aux choses. Nietzsche nous invite ainsi à nous renaturaliser. Le philosophe allemand s'opposait à la fois à deux millénaires de mortification et de mépris religieux du corps et au dualisme occidental qui considérait le corps comme simple enveloppe de l'esprit. Pourtant, le corps résiste comme altérité. Notre corps est entre puissance et faiblesse. Le corps résiste, n'est-ce pas, Sébastien ? Tu en sais quelque chose, moi aussi, nous en savons tous quelque chose.
C'est ça.
N'exprime-t-il pas une profonde également fécondité, tout comme une fragilité inexplicable ? Je cite une petite phrase, enfin une. Je vous donne un petit texte de Nietzsche, toujours dans Ecce Homo. Il dit : la maladie me détacha lentement de tout. Elle m'épargna toute rupture, toute démarche brutale et choquante. Jamais je ne fus plus heureux d'être moi-même qu'aux pires périodes de maladie et de souffrance de ma vie. Il suffit de jeter un coup d'œil sur Aurore ou le voyageur et son ombre pour comprendre ce que fut ce retour à moi-même, une forme supérieure de guérison. Dans ce texte, Nietzsche décrit sa maladie quasiment comme méthode de connaissance de soi, qui paradoxalement va passer par le détachement et l'oubli. Comme un gain de lucidité, une profonde prise de conscience de soi, et comme un dépassement de soi. C'est étonnant comme il décrit ce lent détachement de tout qu'il souligne, qu'entraîne la maladie à la fois dans les relations sociales aux autres, mais dans la relation au monde. Il évoque ici une expérience vécue, partagée par nombre de personnes qui ont connu la maladie chronique ou une maladie grave, mettant la vie en danger. Ces personnes semblent s'être éloignées du monde, soit parce qu'elles se trouvent coupées des autres par leur drame intime, presque enfermées dans une solitude existentielle, soit que les autres les mettent à distance, en quarantaine, comme des pestiférés. Ce détachement des barrières invisibles qui se créent alors entre le malade et autrui, entre le malade et le monde. Ce détachement est un retour à soi. C'est en ce sens qu'il faut comprendre la fameuse phrase de Nietzsche, appris à l'école de guerre de la vie, ce qui ne me tue pas
me rend plus fort.
Voilà, cette fameuse phrase du Crépuscule des idoles, Maxime Zetré, paragraphe 8. Non pas un simple éloge du guerrier et de la force, mais bien apprendre de ses échecs, apprendre de ses erreurs, les surmonter malgré la douleur, en affirmant la vie, mais aussi s'alléger de ses valeurs morales pour inventer sa propre éthique. D'ailleurs, la série, pour revenir à Game of Thrones, met en scène de glorieux et lumineux handicapés, plus nombreux d'ailleurs que les bien portants ou normaux, entre guillemets. Le nain Tyrion, le maître Aemon Targaryen qui est aveugle, la trop grande et réputée laide Brienne de Torth, les eunuques Varys, Vergris, Theon Greyjoy, le paraplégique Bran Stark, le déficient mental et fidèle Hodor.
Hodor,
je l'adore aussi.
Non mais on peut pas résister.
Ouais. Sœur Davos Mervaux, le chevalier oignon à qui il manque des doigts amputés et qui ressent comme un handicap son illettrisme. Cherin Baratheon, la fille de Stannis, du cruel Stannis,
ah oui.
Et qui ressent comme un
un lupus là.
Pardon, qui est marqué par la léprose.
C'est ça.
Sandor Clegane, le limier, qui est brûlé au visage et a peur du feu.
C'est vrai.
Beric Dondarrion, le borgne. Le bâtard Jon Snow, dont le handicap est le nom amputé et le manque de reconnaissance qui va avec. Souvent, ce sont les personnages les plus complexes et les plus humains. Ici, George Martin prend clairement le contre-pied en fait, de l'heroic fantasy classique, où les héros sont à la fois beaux, forts et l'emportent sur les méchants ennemis qui, eux, sont laids, monstrueux. Il prend résolument le parti des freaks, des monstres et des marginaux. À l'instar, par exemple, pour citer d'autres auteurs comme Tim Burton, Todd Browning, Werner Herzog, Guillermo del Toro ou encore Victor Hugo.
Eh oui.
Que Sébastien vient de citer tout à l'heure. Les deux frères sont deux lions brisés, deux êtres sensibles et lucides, deux révélateurs de l'âme humaine, mais qui orientent leurs talents dans des directions opposées. Tyrion scrute les âmes pour en révéler les potentialités, alors que Jamie les scrute pour en révéler les secrets, l'immoralité et l'hypocrisie. Tyrion est une belle âme qui a cultivé l'empathie dans un corps de gnome, c'est son surnom dans la saga. Il dit, dans la première saison, épisode 4, qu'il a un faible pour les infirmes, les bâtards et les choses brisées. Jamie a une âme tordue dans un beau corps. Comme Platon, Martin nous invite à voir au-delà des apparences, à penser et à voir avec l'esprit plus qu'avec les yeux. Pour terminer, je dirais que nul ne sait ce que peut un corps, comme disait Spinoza. Ici, nous entendons une célèbre scène, la scène en fait de la saison 3 et de l'épisode 5, la scène du bain où Jamie et Brienne de Torf prennent un bain ensemble, en tout bien tout honneur. Hein. Mais ceci dit, il va se passer des choses. Dans cette scène, où cette scène plutôt va révéler la véritable valeur du handicap, un gain de lucidité. Dans cette scène, il tombe le masque grimaçant et méprisant du bel âtre qui dissimulait une profonde blessure. Il doit cacher son amour incestueux pour sa sœur, cacher sa paternité scandaleuse et ravaler son honneur, entaché par le surnom infamant de régicide. Là, dans le bain, Jamie et Brienne sont nus, ils sont vrais, ils sont fragiles. Ils jouent une contre-scène hollywoodienne, où la belle fragile tombe en général dans les bras du beau héros fort et courageux. Ici, c'est le contraire. Jamie manque de défaillir, et Brienne le retient et le prend dans ses bras. Leur étreinte est l'étreinte de la compassion et de la reconnaissance. Elle construira leur relation vers le respect et l'admiration réciproque, et peut-être aussi vers leur future attirance. Bon, deux corps nus en même temps dans un bain, ça rapproche. On peut le dire quand même. Pour terminer, avoir un handicap, c'est sûr, hein, permet donc de mieux se connaître. Ou tout simplement de se connaître tout court. L'amoindrissement physique, l'infirmité et les mutilations en tout genre ne sont pas seulement envisagées comme handicap, mais aussi comme source de conversion spirituelle, d'ouverture de la conscience à soi et à autrui, d'ouverture à la différence et à l'altérité. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'avoir un handicap permet, selon ces conditions, de vivre mieux, en étant plus conscient d'accéder à la vérité et à la beauté des êtres. Merci de votre écoute.
Merci. No. said that I must bow so low. Only a cat of a different coat, that's all the truth I know.
C'est The Rains of Castamere par The National. Merci Pablo. Alors tout de suite, un petit morceau de musique avant de passer à la chronique BD de Seb. On va écouter Ray Charles, évidemment, un chanteur handicapé dans Bandit Mafia.
Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Didn't you think I could? Out of sight, but the shingling's a thing tonight. But if that was you and me, I'd have, baby, I would have shown you how to do it right. Do it right, do it right, do it right, do it right. Twisting, shake, 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 baby.
C'était Ray Charles avec Shake Your Tail Feather dans la BO des Blues Brothers, bien sûr, dans Bandit Mafia.
Ça, ça fait du bien.
What you call me? Well, if you give me a chance, I was going to call you a crazy pig fucking dumbass pussy piece of shit.
Oh brother, you's a dead man.
Alors Seb, qu'est-ce que c'est que cette BD?
Alors, la BD, en réalité, c'est un intégral de 5 bandes dessinées regroupées dans un seul pavé. Je dis pavé parce que c'est vraiment du lourd. Et c'est assez, assez surprenant. Alors moi, je ne connaissais pas du tout. Et puis, du coup, je me suis laissé embarquer dans cette histoire qui s'intitule Quintet. Quintet Air Libre aux éditions Dupuis de Giroux, Gillon, Bonin, Alessandrin, Graegn et Cousor. En réalité, vous avez 5 dessinateurs différents. Et un scénariste qui est donc Giroux. Alors, voilà,
qui fait le lien.
Qui fait le lien, bah, c'est lui qui pose l'histoire. Et puis donc après, on
rien
a.
Rien à voir avec Olivier Giroux.
Non, rien non, à voir. Couteaux, c'est Franck Giroux. Alors voilà, comment on présente, comment finalement on attire le client en lisant la quatrième de couverture. Ah ah, mon cher colonel, vous êtes plus habile à traquer les infiltrations ennemies que les fautes d'orthographe. Quintette prend un E à la fin, ou un seul T si vous l'écrivez à l'anglaise. C'est une idée de notre clarinettiste, comme le groupe tient à la fois du jazz band et de la formation classique. Il a suggéré cette graphie, disons, peu orthodoxe. Un comble en Macédoine. Donc voilà, ça c'est un des discours qui est extrait justement du tome 1 où on pose le cas. Durant quelques mois de l'année 1916, sur une base aérienne de la zone neutre de Macédoine, quatre destins vont basculer. À la recherche de l'amour, mais découvrant de toute autre passion, deux femmes et deux hommes parviennent à un carrefour de leur existence. Dora, Alban, Elias et Nafisiska ne se sont jamais rencontrés avant. À la demande des autorités, ils se retrouvent dans un quintet afin de distraire Français et autochtones. S'ils se croisent souvent, aucun d'entre eux n'a la même perception des événements. Ce qui pour l'un n'est qu'une péripétie, constitue pour l'autre le tournant décisif de sa vie. Et même les plus lucides sont incapables de saisir que les passages qu'ils interprètent appartiennent tous à la même partition. Donc en clair, dans cette série regroupée, on a une histoire de base, toute simple. Voilà. On se retrouve donc plongé en 1916 en Macédoine sur une base.
BD historique. Hein.
BD historique.
Ah, comme souvent.
Comme souvent, mais c'est juste le cadre.
Ouais.
C'est juste le cadre et on va pas plus loin. On va pas plus loin dans l'histoire. On est vraiment complètement écarté. Et on se focalise justement sur la vie, sur les relations de ces personnes.
D'accord.
Et à chaque fois, à chaque tome, donc sur les quatre premiers tomes, on a l'histoire, la vie d'un de ces personnages, d'un de ces membres de ce quintet, qui est donc raconté, visionné, à travers de ce qui se passe justement durant cette année 1916 sur cette base aérienne de Macédoine.
Tu veux dire qu'on a 5 points de vue différents,
4 points de vue différents.
C'est ça.
Et dans le cinquième, bah finalement, le cinquième, c'est le plus important, parce que là, on a toute la clé de l'énigme qui apparaît.
Excellent.
C'est excellent ça, c'est franchement
bien vu, bien mené.
C'est comme on continue toujours sur cette présentation de quatrième de couverture, on est sur l'une des pièces maîtresses de l'œuvre de Franck Giroux qui joue sur la simultanéité des points de vue. Le scénariste invente ici le récit choral en bande dessinée. 5 mouvements et autant de solistes graphiques pour jouer cette partition inspirée du compositeur d'histoire. Et effectivement, le fait de changer de dessinateur, donc on comprend bien qu'on bascule sur un autre point de vue et ça apporte aussi quelque chose d'autre aussi en même temps.
Ouais, c'est excellent.
Et c'est excellent. Donc,
même le fond et la forme.
C'est vraiment. Moi, je l'ai lu, franchement, je l'ai dévoré, j'ai adoré. Et franchement, sur le dernier, quand on découvre le fin fond de l'histoire, parce que je peux pas vous le dire. Je peux pas vous le dire. Quand vous découvrez le fin fond de l'histoire, vous êtes là. Wow.
Donc ça vaut le coup de lire toutes ces pages.
Ça vaut le coup de lire toutes ces pages. Ça vaut le coup aussi d'investir parce que bon, le prix est
ça coûte
49 euros.
Et ça peut être un super cadeau pour anniversaire ou pour Noël.
C'est vrai.
On commence déjà les cadeaux de Noël.
Ceci dit, il y en a pour son argent parce que c'est quand même aussi c'est un bel objet. Il est magnifique.
Bah, il est magnifique. Graphiquement, c'est génial. Et puis bon, donc l'histoire, elle est superbe. Voilà.
Quintette de Giroux et compagnie.
Oui, parce que on a quand même quatre ténors de la bande dessinée.
Chez l'éditeur, tu rappelles l'éditeur, ça ?
L'édition Dupuis.
Ah bah oui.
Dupuis.
Grande maison d'édition. Voilà. Merci Seb pour ce quintet. Nous ne sommes 3, c'est un trio ce soir. Et je voulais vous faire découvrir un chanteur, Bill Callahan, donc un chanteur américain qui fait du folk, country, blues, voilà. Et si vous aimez Johnny Cash, si vous aimez Ry Cooder, si vous aimez Leonard Cohen aussi, ça devrait vous plaire. On écoute Pigeons tout de suite dans Bande Geek Mafia. Donc c'est juste pour vous faire découvrir Bill Callahan et puis terminer l'émission. On se dit au revoir juste après.
C'est là.
D'accord ?
D'accord. Yes.
Merci les gars de me laisser passer Bill Callahan. Dans Bande Geek Mafia. Sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point.
Well, the pigeons ate the wedding rice and exploded
somewhere over San Antone. Asked them where they wanted to go. They said, we don't care, we don't know, anywhere, just go. Ever since I'd gotten married, I started working weddings, driving this long white limo. Their ceremony in Brackettville at that phony Alamo. We were 30 miles from the border of Mexico. Well, they're in the back laughing about some uncle named Jack got too drunk, and during his speech, the tears started to flow. Well, they seemed like a match, so I stopped looking for cracks in their road and just drove. Outside of Concan, the groom noticed the gold band on my left hand. He said, you got any advice for us, old man? Well, I thought for a mile.
C'était Bande Geek Mafia, votre émission Info Culture tous les mercredis à 19h sur Radio G. Merci Pablo.
Merci beaucoup à vous et merci les auditeurs. Merci les Seb.
Merci Seb.
Merci à tous.
Restez à l'écoute de Radio G. Tout de suite, c'est Rudy's Back. On se retrouve la semaine prochaine avec Oliver Quiz.
Quiz.
Peut-être d'autres chroniqueurs et chroniqueuses.
En route vers de nouvelles aventures.
Et on vous laisse avec Bill Callahan. Salut.
Salut.
Magnifique découverte. Ciao.
You're married to the whole wide world. The rich, the poor, the sick and the well, the straights and the gay, and the people that say we don't use those terms these days.